Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy de Molière. Vous connaissez l'avare, le malade imaginaire ou les précieuses ridicules, mais sans doute n'avez-vous encore jamais entendu parler de la jalousie du barbouillé. Cette pièce serait sa première comédie, une œuvre de jeunesse écrite par le chef de troupe pour ses comédiens dans la tradition de la farce médiévale. Elle reviendra bientôt sur les tréteaux avec un éclairage à la bougie dans la cour du palais de l'Institut de France. Ce sera le 21 mai, une création de la compagnie Ogma qui concentre ses efforts sur le théâtre des 17e et 18e siècles. Nous sommes avec son fondateur et directeur artistique Charles Dimilio. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez choisi de traiter ce spectacle dans la cour d'un grand palais, comme cela se faisait à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que les spectateurs pourront voir le soir du 21 mai ?
Avant tout, la cour d'honneur de l'Institut de France, ce qui est quand même le clou du spectacle. Et puis surtout, on a essayé d'imaginer ce à quoi pouvaient ressembler les tréteaux que l'illustre théâtre posait quand il allait, par exemple, dans la cour du prince de Conti à Pézenas, dans ces grands palais où il était invité à jouer, où il y avait parfois des salles dédiées au théâtre, mais où parfois il jouait dans des salons ou dans la cour s'il faisait beau. Donc ce seront tout simplement des tréteaux posés au milieu de la cour de l'Institut, donc une sorte de frottement, c'est-à-dire qu'il y aura la beauté du lieu avec la simplicité de tréteaux, avec tout ce que ça comporte de technique, les pieds, les pendrillons pour créer des entrées et des sorties, et bien entendu un éclairage à la bougie qui va rendre la chose encore plus magique, révéler la lumière qui est déjà très belle dans la cour de l'Institut le soir, mais en plus la porter pour faire voyager les spectateurs.
Ce parti pris d'éclairer tous vos spectacles à la bougie, il est important. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ?
Pour amener peut-être le spectateur un peu plus à voyager immédiatement, c'est-à-dire sans qu'il ait même besoin d'y penser, sans qu'il ait besoin de se dire « Ah, il faut que je m'imagine que je suis au XVIIe siècle », ce qui n'est pas du tout notre objectif, mais parce que l'éclairage à la bougie est si vivant, si précieux et fragile, que dès qu'on voit quelque chose éclairer la bougie, on est emporté dans un autre monde, dans un autre univers, et ça rend les choses perceptibles très différemment. Ça crée des contrastes sur les visages qu'on ne peut pas obtenir avec des éclairages électriques. Ça peut nous arriver de jouer à l'électricité, et c'est très différent, ce sont des ambiances très différentes. Donc voilà, la bougie est cette chose vivante, en fait, très, très, très précieuse, à laquelle je tiens pour amener les spectateurs dans notre monde.
Alors, vous êtes un peu comme la troupe de Molière, la troupe de l'illustre théâtre, parce que vous êtes établi en Dordogne, d'ordinaire, mais vous parcourez les routes pour des représentations, souvent en milieu rural. Et cet esprit de troupe est particulièrement important pour vous ?
C'est crucial, c'est crucial. J'écoutais avant de venir l'interview que vous avez fait de Muriel Mayette, qui parle de Molière, écrivant avec plaisir pour ses partenaires, pour ses amis, pour les gens qu'il connaît et avec lesquels il aime travailler. Et c'est un peu ça qu'on a réussi à créer, un peu sans le faire exprès, en le voulant bien entendu, mais sans qu'on le force dans la compagnie. C'est-à-dire que certains comédiens sont avec nous depuis la création pratiquement de la compagnie. D'autres nous rejoignent régulièrement. On a tous les ans des nouveaux comédiens qui nous rejoignent. Donc c'est aussi un vivier vivant, c'est-à-dire que on n'est pas enfermé dans notre façon de faire, on essaye de se remettre en question régulièrement. Et c'est quelque chose de très précieux, à la fois pour avancer peut-être plus vite, parce qu'on a des raccourcis, on se connaît, donc on sait où on va, mais aussi pour s'emporter beaucoup plus loin, beaucoup plus efficacement. Dans ce théâtre très codifié, les codes permettent aussi de créer cette complicité entre nous et finalement d'inventer des choses de représentation en représentation, puisque quand on est emmené en tournée, les publics sont très très différents que si on est sur une série parisienne ou ailleurs dans un théâtre, où on va retrouver quand même des publics assez similaires d'un soir à l'autre, là, on ne sait jamais ce sur quoi on va tomber, en général dans le bon, mais du coup, ça demande aussi d'adapter ces spectacles, pas dans le texte, ni dans la mise en scène, mais on envoie des choses différentes aux spectateurs, et ça ne peut se faire que si on se connaît par cœur, pour justement travailler ensemble pour transporter le public.
Ces spectateurs, vous leur offrez un théâtre assez exigeant, avec notamment une prononciation particulière. Pourquoi est-ce que vous y tenez et comment expliquer ce parti pris ?
Tout d'abord, c'est un parti pris peut-être presque musical. Peut-être de même qu'il y a eu une réinvention des pratiques musicales pour la musique dite ancienne, où on s'est attaché à les rejouer sur des instruments anciens, à retrouver les sonorités qui étaient celles qu'imaginaient les compositeurs. C'est un peu ça qui nous emmène à prononcer ces textes tels que vraisemblablement les auteurs de l'époque les imaginaient dits. Donc ça change, c'est un petit peu comme si on jouait un concerto de Mozart à nouveau sur les violons pour lesquels ils étaient pensés, plutôt que sur un trombone à coulisses, par exemple. Non pas que jouer Molière en français moderne serait jouer du Molière en trombone à coulisses, mais c'est pour essayer de retrouver un petit peu ces sonorités originales, celles qu'imaginaient les auteurs de l'époque, et les rythmes aussi, parce que ça change énormément de choses au rythme du spectacle. C'est forcément, on est obligé, comme on articule plus, de parler un petit peu plus lentement pour projeter aussi la voix et nous permettre d'être entendus dans des espaces comme celui de la cour, qui ne va pas forcément être très évident d'un point de vue acoustique, parce qu'il est grand. Et cette articulation très spécifique permet aussi de projeter la voix très différemment et beaucoup plus puissamment, en fait, que ce qu'on peut faire quand on parle un français qui nous est plus familier, même à nous, comédiens. Mais c'est aussi parce que... ça permet d'évoquer le théâtre de l'époque, les pratiques de l'époque, un théâtre très codifié. Déjà étrange, c'était volontairement pas réaliste à l'époque, donc c'est quasiment aussi étrange aujourd'hui pour nous que pour les spectateurs du XVIIe siècle. Et en fait, à travers une plus grande distance en apparence de ces textes-là, permettre de la réduire et de nous rendre beaucoup plus familiers immédiatement avec ces textes, dont on peut dire parfois aujourd'hui, mauvais escient sans doute, je pense en tout cas, qui sont loin de nous par le temps qui s'est écoulé, les 400 ans qui nous séparent de Molière. Au contraire, cette distance qu'on force le spectateur à prendre permet de le rapprocher beaucoup plus immédiatement. Et effectivement, c'est exigeant parce que ça demande des spectateurs très actifs.
Alors peut-être que vous pourriez nous donner un exemple de cette prononciation en nous lisant un extrait de cette pièce, La jalousie du barbouillé, je crois que vous avez choisi. Une tirade du docteur, que vous pouvez d'abord nous présenter, ce docteur qui est un personnage très amusant, qui préfigure déjà le personnage du pédant cher à Molière.
Tout à fait. C'est un personnage un peu type, hein, qu'on peut retrouver dans d'autres farces antérieures à Molière, notamment dans les rôles que tenait et qu'écrivait pour lui Guillaume Gorju, qui était un des farceurs de l'Hôtel de Bourgogne, qui arrête sa carrière quasiment comme Molière commence la sienne, et à qui le grand ennemi de Molière dans les années 60, Antoine de Saumaise, reproche justement de s'être approprié le répertoire de Guillaume Gorju, qui jouait des rôles de médecin et de pédant. Donc c'est assez intéressant aussi de retrouver cette filiation. Et donc ce docteur, on ne sait pas docteur en quoi, en tout cas c'est vraiment la figure même du pédant qui vient perturber toute la pièce. Il n'a pas vraiment de fonction dans la narration, dans la trame de l'histoire, mais il vient mettre la pagaille dans sa pédanterie. Et c'était vraisemblablement le rôle que jouait lui-même Molière, que je me suis donné dans le spectacle, sans savoir que c'était celui de Molière, mais qui, dans l'équilibre des rôles et dans l'équilibre justement de la direction de ses partenaires, tout en tenant le rôle, est assez, assez limpide. Donc c'est assez fascinant de voir aussi comment Molière travaille ses rôles en fonction de l'ensemble. Et donc c'est une tirade assez virtuose, comme souvent les tirades que se donne Molière, qui fonctionne en chiasme de façon assez, assez spectaculaire. Tu me prends donc pour un homme à qui l'argent me fait tout faire, pour un homme attaché à l'intérêt, pour un homme mercenaire. Sache, mon ami, que quand tu me donnerais une bourse pleine de pistoles, et que cette bourse serait dans une riche boîte, cette boîte dans un étui précieux, cet étui dans un coffret admirable, ce coffret dans un cabinet curieux, ce cabinet dans une chambre magnifique, cette chambre dans un appartement agréable, cet appartement dans un château pompeux, ce château dans une citadelle incomparable, cette citadelle dans une ville célèbre, cette ville dans une île fertile, cette île dans une province opulente, cette province dans une monarchie florissante, cette monarchie dans tout le monde. Et que tu me donnerais le monde où serait cette monarchie florissante, où serait cette province opulente, où serait cette île fertile, où serait cette ville célèbre, où serait cette citadelle incomparable, où serait ce château pompeux, où serait cet appartement agréable, où serait cette chambre magnifique, où serait ce cabinet curieux, où serait ce coffret admirable, où serait cet étui précieux, où serait cette riche boîte dans laquelle serait enfermée la bourse pleine de pistoles, que je me soucierais aussi peu de ton argent et de toi que de cela.
Bien sûr, un médecin ne peut pas s'intéresser à l'argent.
Exactement. Ou en tout cas, un esprit illuminé comme est censé l'être le docteur.
Contrairement à ce que pense justement le fameux barbouillé.
Qui réplique juste derrière que comme il était médecin, il pensait qu'il fallait lui parler d'argent.
On retrouve donc bien le Molière que nous connaissons. Vous avez travaillé sur un manuscrit qui se trouve à la bibliothèque Mazarine. Et ce n'est donc pas un hasard si cette représentation a lieu dans la cour de l'Institut de France qui accueille la bibliothèque Mazarine. C'est un manuscrit en réalité qui a été un peu oublié, mis de côté et qui a permis une redécouverte, pourrait-on dire.
Tout à fait, c'est un manuscrit un peu mystérieux parce qu'on ne sait pas très très bien d'où il vient. Il apparaît un petit peu par magie quand Rousseau essaye d'éditer les œuvres complètes de Molière au XVIIIe siècle, où tout d'un coup, on se rend compte qu'il existe ce manuscrit. Rousseau, dans son édition, décide d'écarter la jalousie du barbouillé des œuvres de Molière, en jugeant que c'est trop proche de la farce pour être digne du grand Molière tel qu'on le percevait au XVIIIe.
Il l'écarte, c'est-à-dire qu'il ne l'attribue pas à Molière.
Absolument. C'est un peu le même genre de guerre qu'il peut y avoir pour les tableaux attribués à tel grand peintre. Rousseau décide que ce n'est pas du grand Molière. Alors qu'en revanche, il faudra attendre jusque dans les années 1850 ou 70, si je ne dis pas de bêtises, pour que Viollet-le-Duc, pas l'architecte, mais l'éditeur, décide de l'intégrer pour la première fois, de l'imprimer pour la première fois dans les œuvres complètes de Molière. Le manuscrit est très beau, j'ai eu l'occasion, grâce à Yann Sardet de la bibliothèque Mazarine, d'y avoir accès pour pouvoir établir le texte et notamment la ponctuation originale de ce texte, pour mieux comprendre les rythmes justement de cette écriture. Il a beau ne pas être de la main de Molière, c'est un témoignage, un document assez bouleversant. C'est une main fin 17e, début 18e, on ne sait pas très bien, je ne sais pas s'il y a d'études des filigranes qui a été faite sur le papier, mais c'est vraiment une porte vers Molière, vers l'auteur, mais aussi vers l'acteur. On arrive à percevoir, même si ce n'est pas lui qui l'a recopié, à percevoir ce que c'est qu'être un acteur au XVIIe.
Ce qui est intéressant, et ce sera dit dans une causerie juste avant le spectacle, c'est que Molière, au début, n'éditait pas, n'imprimait pas ses pièces. Elles étaient comme celle-ci, manuscrites.
Destinées à être jouées, avant tout, puisque Molière est un acteur avant d'être un auteur. Molière devient peut-être un auteur parce que c'est un acteur et qu'il a besoin de textes. On ne sait pas forcément ce qui l'amène à jouer, mais c'est ce qui est très perceptible, en tout cas dans La jalousie du barbouillé et ses premières farces de Molière, c'est que c'est un acteur qui écrit pour d'autres acteurs, y compris lui-même. Et effectivement, il ne se souciait pas du tout de l'impression. Pour lui, ce qui était important, c'était déjà de, comme on pourrait dire, se faire un nom, en tout cas établir sa troupe de façon visible et distinctive dans le Paris où la concurrence entre les théâtres était féroce. Mais ce sont des accidents de parcours, si je puis dire, ou en tout cas des contrefaçons qui le pousse à s'intéresser à la publication de ses œuvres. Alain Riffaud nous parlera de ce sacré zozo qu'était Jean Riboud et qui est celui qui a motivé Molière à s'intéresser de près à l'édition et s'y intéresser de près à tel point qu'il en a transformé cette activité en activité très lucrative à laquelle il s'intéressait de très très près et qui lui rapportait des revenus très intéressants, contrairement à d'autres auteurs de l'époque.
Alors avec cette pièce, nous découvrons le genre de la farce qu'on retrouve souvent chez Molière, mais peut-être qu'on néglige un peu. Pour vous, la farce chez Molière est peut-être plus importante qu'on ne le dit.
Absolument. Alors j'ai un peu une obsession pour la farce et pour les farceurs français de Maître Patelin jusqu'à Tabarin ou même les grands farceurs de l'Hôtel de Bourgogne des années 40, 1640. Mais on a tendance justement à se dire que à l'époque de Molière, la farce était un petit peu éteinte, au début de sa carrière, évidemment, en tout cas à Paris, qui est un petit peu le théâtre visible pour nous aujourd'hui. Le théâtre dont on témoignait à l'époque était principalement parisien. On parle très peu des troupes de province, dont on ignore le répertoire. Et Molière, justement, en faisant aussi cette transition entre les tournées à la campagne et arrive à Paris avec des pièces en cinq actes, mais aussi des farces, puisqu'on sait qu'il joue La jalousie du gros René, qui est vraisemblablement la jalousie du barbouillé devant le roi, quand il y arrive en 59. La farce me semble effectivement très importante chez Molière, puisqu'elle va porter aussi son répertoire. Il y a une farce tabarinique, un farceur qui jouait sur le Pont Neuf, enfin sur la place Dauphine, donc vraiment le théâtre de Tréteaux dans les années 1620, qui a forcément inspiré la grande scène du sac des Fourberies de Scapin. La farce, on considérait que c'était un petit genre ou un mauvais genre dans la deuxième moitié du XVIIe, quand Molière commence à jouer à Paris. Et justement, ce fameux Antoine de Saumaise, toujours son grand ennemi, lui reproche, entre autres choses, d'être le premier farceur de France, comme étant l'insulte suprême. Et c'est ça peut-être aussi qui fait qu'on a, plus ou moins et progressivement, occulté ce pan de l'œuvre de Molière, ce Molière farceur, que ce soit en lien avec la Comédie dell'Arte ou pas. Moi, je pense, en travaillant justement ces farceurs qui précèdent Molière, qu'il y a une filiation qui n'est pas que celle de la Comédie dell'Arte, puisque justement, notamment par ce reproche qu'on lui fait de voler le répertoire de Guillaume Gorju, qui montre clairement que Molière aussi se rattache à l'histoire de la farce française, qui est celle de la farce médiévale, qu'on peut retrouver chez Maître Patelin, bien sûr, mais chez d'autres farces plus courtes et moins spectaculaires, qui est celle de farceurs comme Agnan Sirat, Tabarin, qu'on a complètement oublié aujourd'hui, Guillaume Gorju et le trio de farceurs de l'Hôtel de Bourgogne. Pardon, je suis un peu un geek dès que je parle de la farce, donc je vais peut-être m'arrêter dans mon énumération, mais qu'on perçoit bien sûr dans les premières pièces de Molière, qui sont vraiment des farces avec un argument très liminaire et qui sont là pour créer simplement des situations d'où naît l'humour, mais qu'on retrouve aussi beaucoup plus tard dans son œuvre, dans Georges Dandin par exemple, qui est tiré de La Jalousie du Barbouillé. C'est une adaptation en comédie régulière en trois actes de La Jalousie du Barbouillé, qu'on retrouve bien sûr dans Les Fourberies de Scapin, et à travers aussi ses rôles types de valet, par exemple, qui tiendra toute sa vie, qui est un héritage direct, bien sûr, des valets de Commedia dell'arte, mais aussi du valet tel que peut l'inventer Tabarin dans ses farces à lui.
Pour vous, quel est le rire que peut susciter cette pièce? Est-ce que c'est un rire qui peut aussi venir de l'homme médiéval, peut-être, qui subsiste encore au XVIIe siècle?
Tout à fait, ouais, c'est un rire que j'appellerais immédiat, pas du tout parce qu'il est moins bien qu'un rire réfléchi, ce fameux rire dont parle Musset quand il parle de Molière, mais c'est un rire qui nous échappe en fait, incontrôlable, où la farce n'est pas que du rire, la farce médiévale va au-delà de ça bien entendu, mais c'est un rire qui irrésistible en fait, qui nous surprend tellement par son évidence, qui nous emporte dans ce tourbillon. Et pour avoir justement travaillé sur à la fois le répertoire médiéval, le répertoire renaissant et ce répertoire de Tabarin, c'est toujours, pour nous comédiens et pour les spectateurs dans ce que nous on perçoit du plateau, un truc incroyable de voir à quel point ça marche et où qu'on joue. Que ce soit à Paris, dans un petit village de 400 habitants où le théâtre n'a pas toujours lieu, ou dans un théâtre plus établi. C'est toujours ce même rire immédiat qui rejoint tous les humains, en fait, entre eux, finalement.
Ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à ce résultat d'immédiateté, vous prenez le détour d'effectuer de nombreuses recherches, d'avoir une réflexion assez sophistiquée aussi dans la mise en scène, dans la façon de jouer, pour toucher les cœurs, finalement.
C'est la définition même de la rhétorique que vous venez de faire, sur laquelle ce théâtre-là ne peut pas faire l'impasse. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui est dicté par la rhétorique, qui dicte de toute façon l'histoire de l'humanité depuis les Grecs anciens, où les auteurs du XVIIe n'envisagent le monde presque qu'à travers ces cinq étapes obligatoires de la rhétorique. C'est ce qui va dicter bien sûr aussi l'architecture, la peinture et le théâtre, que ce soit pour l'auteur qui prend à sa charge les trois premières étapes de la composition, et ensuite le comédien qui prend à sa charge aussi les deux dernières étapes, qui sont celles de la restitution du rendu pour le spectateur. Et en fait, ce sont cinq étapes absolument et de façon très complexe, très intellectuelle, qui demandent à effectivement s'intéresser à beaucoup, beaucoup de choses pour justement ensuite que tout ce travail intellectuel ait été fait pour le livrer au spectateur, qui n'a plus besoin de le faire, si je puis dire, qui, bien sûr, doit rester actif pour capter ce spectacle, mais c'est justement ce qui permet au spectateur de trouver sa propre place et sa propre émotion à travers son propre chemin intellectuel. On ne dicte jamais une émotion au spectateur.
Alors, nous avons parlé des mots, mais qu'en est-il des gestes et même des expressions du visage? Comment les travaillez-vous?
Les expressions du visage viennent en fait très, très, très facilement. Elles sont quasiment écrites dans les mots. Déjà parce que pour cette déclamation baroque, on est obligé d'articuler énormément et donc de faire des grimaces. Un des traités du XVIIe qui nous transmet justement cette pratique dit que si on veut être joli sur scène ou lorsqu'on déclame, il ne faut pas essayer de déclamer parce qu'on est obligé de faire des grimaces qui déforment le visage pour arriver à cette élocution. Donc on est en permanence en train de faire des grimaces, même quand on joue de la tragédie, que la comédie nous force très spontanément en fait à exagérer, à pousser pour caractériser les personnages que l'on joue et pour créer de l'humour aussi à travers les visages, un peu comme si les visages étaient des masques, mais qu'on change en permanence.
Et sur les déplacements sur scène?
Les déplacements sont très très simples. J'essaye de les concevoir comme justement une révélation aussi de la rhétorique, c'est-à-dire une mise en pratique sur le plateau de la rhétorique, quand il y a des passages un peu plus... qui nécessitent une mise en avant du personnage, bah bien sûr, il va être en avant-scène. Et la gestuelle vient accompagner tout ça. La gestuelle fait vraiment partie intégrante de la déclamation. On a tendance à se dire que comme c'est le corps, ça n'appartient pas à la déclamation qu'on associe uniquement à la voix. En fait, la gestuelle n'est qu'une révélation des mots. Elle vient mettre en lumière les mots, les porter au même titre que la voix.
Alors, ce qui est important aussi, ce sont les costumes. Et dans cette pièce, vous avez choisi de mettre en avant les rayures avec toute leur symbolique. Qu'est-ce que ça signifie ?
La rayure, déjà au Moyen-Âge, c'était pas terrible. C'était en général l'apanage des fous ou des personnes qui introduisent un désordre social. Quelqu'un qui menace l'ordre social très établi, donc était habillé de rayures. C'était quelque chose qui n'était pas forcément dans les esprits du XVIIe siècle. C'est difficile de vraiment savoir dans quelle mesure cette vision du monde médiéval avait laisser des traces, en tout cas de ce point de vue-là, dans le monde du XVIIe. Mais on remarque dans les gravures que nous a laissées cette époque des grands farceurs du XVIIe, que ce soit justement Guillaume Gorju, mais aussi Gros Guillaume et d'autres farceurs dont je parlais tout à l'heure, qu'ils ont souvent des rayures à leur costume. Et donc, c'est partant de là où je me suis dit que ça pourrait être intéressant. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément souvent dans des costumes du XVIIe siècle, ces rayures qui viennent en fait, ponctuer un petit peu le rythme des costumes et donc forcément les rythmes du spectacle.
C'est quelqu'un de votre troupe qui confectionne les costumes ?
C'est moi-même. C'est moi qui les dessine et qui les confectionne. Donc là, je suis en plein point d'ourlet, justement, pour coudre les rayures, notamment sur le pourpoint du barbouillé.
Ce qui est important pour vous, c'est que vous ne faites pas des reconstitutions historique, ce ne sont pas des restitutions comme on pourrait le faire pour un monument du patrimoine, mais une interprétation contemporaine. Alors les gens seront peut-être étonnés de cette affirmation.
C'est-à-dire que je ne prétends pas faire du théâtre historiquement informé, mais justement historiquement renseigné. C'est-à-dire que j'ai étudié, et d'autres l'ont fait aussi avant moi et m'ont transmis le résultat de leur recherche. On a étudié toutes les sources qui nous sont accessibles de ces théâtres-là, mais le théâtre, c'est quelque chose de vivant. Donc on a beau lire tous les bouquins du XVIIe du monde qui nous attestent de pratiques théâtrales, c'est jamais ça qui va rendre le théâtre vivant. Et donc je milite pour dire justement que nous ne faisons pas des pièces de musée, nous faisons du spectacle vivant aujourd'hui, avec des acteurs du XXIe siècle, pour des spectateurs du XXIe siècle. Mais en ayant la connaissance la plus vaste possible de ce monde qui a vu éclore à la fois ses œuvres qui nous sont parvenues, mais aussi une pratique théâtrale qui nous est moins parvenue. C'est un petit peu la démarche qu'on propose et va à l'inverse de ceux qui, peut-être dans 200 ans, diraient « Ah ben, on va faire du théâtre comme au XXIe siècle ou comme au XXe siècle » en lisant les ouvrages théoriques de Peter Brook ou de Claude Régis. Ça ne suffit pas pour créer un spectacle vivant et quelque chose qui va donc toucher les cœurs, comme vous le disiez tout à l'heure, des spectateurs. Donc, on ne s'attache pas à ne faire que ce qu'on peut savoir. On est obligé de combler les trous, d'imaginer des choses, en partant de ce qui nous est livré, ce qui nous est accessible, pour que ça parle avant tout à des spectateurs d'aujourd'hui.
Vous aimez les pièces rares qui figurent peut-être moins souvent au répertoire, comme vous vous concentrez sur deux siècles, le XVIIe et le XVIIIe. Pour vous, qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce, La jalousie du barbouillé ?
Déjà la farce, comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup la farce. Et on a entamé vraiment une phase de recherche pratique avec la compagnie sur la farce à proprement parler depuis 2020. Donc c'était un petit peu aussi, pas l'aboutissement, mais un jalon important dans cette farce pour créer cette filiation de la farce française de Patelin à Molière, pour mettre à l'épreuve de la pratique ces idées saugrenues que je peux avoir parfois. Parce que aussi, effectivement, je me suis dit que l'année 2022 allait voir tellement de Molière sur scène, et tant mieux, que peut-être le public, au bout d'un moment, aurait envie de connaître quelque chose de plus de Molière que ses grands chefs-d'œuvre, que sont Scapin, que sont le Misanthrope, que sont Tartuffe, et de donner accès à un Molière un peu moins connu, qui sera le thème aussi, puisque la compagnie a un festival en Dordogne en juillet-août, et cette année en août, où on va s'attacher justement à montrer qui est Molière à travers tout ce qui n'est pas Molière. Mais qu'est-ce qui a pu construire Molière ? Et pour moi, cette jalousie du barbouillé en fait partie. C'est ce premier jalon vers cette grande œuvre qu'on connaîtra.
Alors, sans dévoiler toute l'histoire, nous parlons depuis le début d'un barbouillé. Qu'est-ce que c'est un barbouillé ?
Un barbouillé, au départ, avant de vraiment m'intéresser au concret de l'histoire de la farce française, en croisant le titre, je me suis toujours dit, bah, c'est quelqu'un qui est bourré tout le temps. Déjà, à l'époque, on était barbouillé après avoir, quand on avait une gueule de bois. En fait, pas du tout. Ça relie justement un personnage type de la farce française qu'on peut retrouver dans certaines sources médiévales. On parle de ce barbouillé de farine le visage pour jouer la comédie. On sait que Tabarin, toujours lui, était ce qu'on appelait un enfariné, c'est-à-dire qu'il se maquillait le visage de façon très très blanche, avec de la farine ou non, mais en tout cas ça rappelait la farine, une tradition qu'on a encore d'ailleurs aujourd'hui avec nos hommes politiques lorsqu'on les décrit, de les enfariner, qui rendait le personnage ridicule. C'était un type de personnage qui, quand on le voyait apparaître avec ce visage blanc, donnait le signal tout de suite au spectateur que c'était plutôt quelqu'un d'un petit peu poltron, d'un petit peu paresseux, qui aimait bien effectivement la bonne chair et des choses comme ça, qu'on retrouve chez Tabarin, qu'on retrouve dans le trio de farceurs de l'Hôtel de Bourgogne, qu'on retrouve aussi chez Jodelet, qui était un grand farceur de l'Hôtel de Bourgogne, qui a croisé Molière, puisqu'il finit sa carrière en 1660 dans la troupe de Molière, qui lui a écrit le rôle du vicomte de Jodelet dans Les Précieuses Ridicules, et qui a commencé sa carrière dans les années 40, notamment avec Paul Scarron, qui lui écrit sa première pièce, Jodelet ou le maître valet, qui est un valet enfariné, qui est un valet avec des rayures sur son costume, bien entendu, et qui perpétue ce type, en fait, du personnage un peu paresseux, légèrement vulgaire, mais surtout très attachant.
Et pour finir, Charles Dimelio, qu'est-ce que c'est pour vous le théâtre ?
Waouh ! Vaste question ! Pour moi, c'est, si je dois faire des grandes phrases, c'est peut-être une des choses qui me donne beaucoup de foi dans l'humanité. Que les hommes, depuis toujours, depuis qu'on a des traces de ce que les hommes sont capables de faire, ont eu ce besoin. Ce besoin de faire du théâtre, de s'échapper dans une fiction, qu'elle soit tragique, comique, héroïque, a eu besoin de voyager dans d'autres vies, dans d'autres mondes. Et ça me donne une confiance absolue, même dans des temps peut-être un peu moins rigolos, de ce qu'est capable l'homme de beau et de chouette.
Eh bien, un grand merci. Nous vous donnons donc rendez-vous le 21 mai pour la création de La Jalousie du Barbouillé par la compagnie Ogma dans la cour du palais de l'Institut de France. Ce sera donc en plein air et en soirée. Et puis, vous pouvez aussi suivre les autres créations de la compagnie Ogma, notamment lors d'un festival cet été. Est-ce que vous avez déjà les dates ?
1er août au 8 août, autour de l'arrondissement d'Auriac du Périgord, qui est un petit village de 400 habitants, mais qui est notre fief et qui nous accueille tous les ans avec beaucoup, beaucoup de merveilles.
Et toutes les réservations sont ouvertes en ligne, notamment sur le site internet de la compagnie Ogma, qui s'écrit O-G-H-M-A. C'est le nom d'un dieu celte. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup, Priscille.